Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Bonjour Olivier Liron. Einstein, le sexe et moi est votre deuxième récit.
Une autre question sur l'éducation nationale. J'ai lu, en dehors de cet écrit, que vous avez été professeur agrégé quelques mois et que vous avez démissionné à la suite d'une grave dépression, justement, je pense, j'ai l'impression, due à l'impuissance. J'ai lu dans des interviews où vous analysez comment l'éducation nationale abandonne et maltraite non seulement ses élèves différents, mais aussi les professeurs qui rêvent de transmission et de réparation. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience et nous redire votre analyse et comment aujourd'hui vous réussissez à transmettre quand même, parce que vous êtes devenu quand même professeur?
Oui. Alors, est-ce que... Alors, je ne sais pas exactement l'interview à que vous faites référence, mais j'en ai beaucoup parlé, effectivement. Oui. Alors oui, moi je suis enseignant, je le reste. Hein. J'ai travaillé, donc je suis agrégé de lettres et j'ai normalien. J'ai aimé mes études littéraires et mes études universitaires et tout ce qu'elles m'ont apporté. J'ai enseigné à l'université. Je me sens pas légitime pour avoir une parole, on va dire, de terrain ou de là encore de représentative des conditions de travail. Je précise parce que c'est important. J'ai pas la parole d'un enseignant engagé, d'un militant, d'un syndicaliste. Je suis vraiment simplement là aussi dans l'envie de partager mon expérience parce que je sens que là encore beaucoup d'enseignants l'ont eu. C'est le sentiment du coup au bout de 3 ans. Quand j'ai pris un nouveau poste dans un lycée, je me suis senti effectivement dans un cadre qui ne me convenait plus. Et là encore, moi j'aime enseigner, et je me trouvais dans un cadre qui ne me convenait plus. Un cadre institutionnel, un cadre, un système, une hiérarchie qui ne me convenait plus. J'avais l'impression que les valeurs de transmission de savoir, de transmission, etc., n'était plus possible dans un cadre humaniste, hein, pour employer un mot qui est malheureusement un peu en crise, mais qui est un beau mot, tout simplement, même peut-être mieux qu'humaniste, humain, quoi. C'est-à-dire, oui, j'avais l'impression que l'enseignement à taille humaine, avec des l'humanité qui caractérise quand même un bon enseignant, une bonne enseignante, était vraiment en crise et que on était entré dans une nouvelle ère, hein, qui sans doute dépasse largement l'éducation, hein, mais l'éducation est dans une nouvelle ère où effectivement il s'agissait davantage de contrôler les élèves en termes disciplinaires, de les évaluer, de les
trier.
De
les trier.
Oui, voilà, c'était finalement une démarche de contrôle, de sélection, un cadre, là aussi, hein, qu'on pourrait dire, exerçant une forme de violence normative, on pourrait dire, sur les enfants, et visant à cela. Et même si à titre personnel, j'arrivais à prendre de la liberté vis-à-vis de ces normes, de ces programmes, etc., de ces consignes, ce qui sans doute est d'ailleurs de plus en plus difficile, mais en tout cas je sentais que le cadre dans lequel j'étais m'était hostile, alors pas d'un point de vue paranoïaque, hein, était en contradiction avec mes valeurs et avec mes convictions, c'est-à-dire que la transmission doit se faire en partant, j'aime pas ce mot, mais en intégrant, parce que c'est pas uniquement ça non plus, mais en intégrant la singularité humaine de l'enfant qu'on a en face de soi. Et je suis bien conscient qu'avec 40 personnes, effectivement, on a du mal à le faire, et que les conditions structurellement le rendent. Et c'est pour ça que je suis parti, parce que j'avais le luxe de pouvoir me le permettre, même si j'ai été quand même, du coup, difficile ensuite de vivre de mes livres. Aujourd'hui, je vis de mes livres d'écrivain. Bon, pendant quelques années, effectivement, ça a été des années de précarité, donc il y a eu un coût à ce départ et à cette reconversion professionnelle, comme on dit. Malgré tout, je pouvais me le permettre, et donc je veux pas être le porte-parole de, voilà, je pense simplement que beaucoup d'enseignants ont vécu la même chose que moi. Ce qui m'a le plus surpris, c'était, j'en fais pas effectivement mystère, je le raconte dans mes livres et j'en parle souvent publiquement, j'ai traversé une dépression à ce moment-là, et c'est vrai, j'ai été étonné de l'absence complète de, et donc j'en ai fait part à ma hiérarchie, j'étais quand même normalien agrégé, je sortais de la Sorbonne, donc il y avait un moment où finalement j'étais dans une position, je le dis évidemment avec la distance que j'ai aujourd'hui, mais j'étais dans une position de voilà, d'agrégé, donc de corps d'élite, quoi.
C'est ça.
Et donc, à partir du moment où je traverse une situation difficile, j'ai été étonné. Évidemment, sur le coup, j'étais aussi choqué, j'étais pas, mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, je suis surtout surpris que, à ce moment-là, l'éducation nationale n'ait pas les moyens. C'est-à-dire que je n'ai ni eu de rendez-vous, ni eu de, même de réponse par mail. Je n'ai eu absolument aucune.
Écoute.
Ce qui est quand même unique dans le monde professionnel. Je veux dire, aucune entreprise ne fonctionnerait comme ça.
Non.
À l'heure où on veut moderniser à tout prix, etc. Je veux dire, aucune entreprise moderne du CAC 40, même la plus férocement capitaliste, ne fonctionnerait comme ça,
ouais.
En laissant un cadre comme ça, sans lui donner de. Donc, effectivement, au bout de quelques mois, j'ai pris cette décision assez rapidement, en fait. Hein. Mm. Au bout d'un an, je l'ai officialisé. Parce que je ne me voyais pas continuer dans un système où, avec un tel isolement et un tel sentiment d'inutilité lié à cet isolement. Et j'ai été surpris de ça, je le suis encore. Et alors, au début, j'en parlais pas. Effectivement, pour quelques années, j'ai commencé à en parler publiquement. Et là encore, c'est intéressant. On parle jamais de soi par plaisir. Hein, mais ça permet de rencontrer, j'en ai rencontré énormément, des enseignants qui ont changé de voie, ou qui ne peuvent pas changer de voie, ou qui n'ont pas cette envie-là, mais qui souffrent effectivement de ces conditions de travail qui sont pour moi extrêmement difficiles,
ouais.
Parfois dégradantes, parfois humiliantes,
c'est ça.
et que je trouve effectivement important de soutenir, puisque j'ai écrit ce livre où je raconte le harcèlement vécu par les enfants.
Mmh.
Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai plus que jamais envie de rendre hommage aux enseignants, en fait. Et de raconter à quel point, c'est les mêmes facettes d'un système.
C'est ça.
C'est la même chose. De montrer à quel point le sacrifice qu'on leur demande est réel et à quel point c'est un métier extrêmement, extrêmement dévalorisé. Et finalement, au-delà des drames qu'on connaît qui surviennent dans l'éducation nationale, il y a. Un voile qui est jeté sur la souffrance au quotidien des personnes. Et je crois que vraiment, il y a une réelle souffrance des enseignants aujourd'hui qui n'est pas audible parce qu'elle est recouverte par un vacarme et une méfiance qui s'explique par d'autres, sans doute par d'autres facteurs, hein, mais une méfiance vis-à-vis de l'école, de l'État, des enseignants, des fonctionnaires, etc. Mais qui recouvre complètement la réalité de la souffrance des enseignants. Et moi, mon parcours, c'était celui-ci d'abord de partir et ensuite de me reconstruire autrement. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais j'ai surtout rencontré des personnes qui, malheureusement, ont connu des périodes très longues, hein, de souffrance, de dépression, parfois, j'ai aussi parlé avec des personnes, il y en a quand même plusieurs autour de moi, qui ont eu des collègues qui se sont suicidés, qui ont eu, donc il y a eu des vrais drames, hein, des dépressions, des suicides. Et en parler, c'est pas entretenir une sorte de complaisance dans le fait divers ou dans les choses glauques, c'est, je pense que, bon, la sociologie s'est inventée sur l'analyse du suicide comme fait social, et je pense que je sais que des personnes qui fréquentaient la même académie que moi, je vais pas donner le nom parce que c'est pas important, mais se sont suicidées dans des conditions qui sans doute étaient insupportables pour elles. Moi, j'ai eu cette force mentale qui fait que j'ai pas du tout traversé des idées aussi sombres.
Ouais.
Grave dépression, c'est d'ailleurs un peu inexact.
Ouais.
dépression tout court. Hein.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Ce sentiment-là, je pense qu'il est effectivement déterminé par le cadre dans lequel on est. Et je pense qu'on fabrique ce stéréotype qui n'est pas complètement faux du prof déprimé. Mmh. Et je m'interroge beaucoup là-dessus parce que oui, on a tous connu quand on était enfant et puis maintenant, on a tous dans notre entourage un prof qui est un peu dépressif. Mmh. Et je me demande finalement dans quelle mesure on n'est pas dans un système qui fabrique non pas que des enseignants, mais de manière générale des salariés et des individus dépressifs. Et on fabrique quand même de la souffrance. On est une société qui fabrique de la souffrance. Donc là encore, m'interroger sur, disons que l'intérêt que je porte aux enseignants... C'est à la fois un amour que j'ai des enseignants. Là, j'écris un prochain livre sur ma mère qui est enseignante, qui est retraitée aujourd'hui, mais qui est enseignante. Donc, j'ai à la fois une vraie admiration et un vrai amour des enseignants. Mm. En même temps, je trouve que leur histoire, l'histoire de l'enseignement, l'histoire des enseignants, l'histoire humaine des enseignants, raconte beaucoup l'histoire de l'évolution de notre société et l'évolution de la France. Et que finalement, au miroir de l'évolution de l'enseignement, on comprend bien les mutations contemporaines des sociétés, les problèmes que ça pose. Aujourd'hui, je pense qu'il faut réinventer complètement l'école. Moi, j'ai choisi de fonder une structure, alors, qui est une structure privée, hein, mais qui est une structure d'atelier, d'écriture notamment, une école de la création, et où j'ai encore le sentiment toujours d'être enseignant autrement. Dans un autre cadre, mais je fais toujours le même métier. Je transmets, j'accompagne, je partage. Et je crois qu'on a plus que jamais besoin de réinventer complètement l'école. Hein. Évidemment, ça, c'est des choix, c'est des choix de société,
des choix politiques.
C'est des choix forts, c'est des moyens, c'est des décisions fortes. Hein, je crois qu'aujourd'hui, on est quand même dans une urgence, hein, vraiment de défendre en fait, de défendre. L'école, de défendre l'idée de l'école, l'idée de l'enseignement, l'idée de la puisque c'est toute une idée de la démocratie, hein, qui est derrière,
tout à fait.
C'est la condition de l'égalité des chances. C'est donc je crois que ça m'intéresse aussi l'école parce que ça, la crise de l'école à la fois infère détermine mais aussi le reflet de la crise qu'on traverse et que je pense que ce serait un bon moyen de construire un monde meilleur, encore une fois, de repenser les processus de savoir, de transmission et d'acquisition des connaissances. Et je crois qu'aujourd'hui, on est globalement... je ne suis pas du tout dans une réflexion spécialisée sur la pédagogie, ou en tout cas, c'est une réflexion très empirique. Mais avec du recul, j'ai l'impression que finalement, les discours qu'on entend sont des discours qui sont comme toujours très biaisés, qui sont très polarisés par le jeu médiatique. On a d'un côté, on va dire, des idées à tendance réactionnaire qui vont vouloir réactiver tout un imaginaire un petit peu désuet de l'école et de l'autorité de l'école. Et de l'autre côté, un discours extrêmement en décalage aussi avec la réalité qui va promouvoir une sorte de changement de paradigme et d'abandon de l'idée même de savoir, de l'idée même de connaissance, de l'idée même de transmission pour quelque chose qui me semble assez nébuleux, que j'ai du mal à entrevoir. Et je trouve qu'on manque d'engagement réel, d'expérience concrète, de pédagogie. Je trouve qu'on est dans un affrontement théorique.
C'est vrai.
Entre la craie, l'image de l'instituteur avec sa craie et sa baguette, et de l'autre, une sorte de novlangue qui consiste un petit peu à faire table rase, quoi. Un peu on est entre ces deux écueils, en fait, de la tabula rasa et de la réaction passéiste, et qu'on a beaucoup de mal à faire émerger, en fait, et à défendre les enseignants, alors que je pense que c'est la majorité, qui tout simplement font leur boulot d'apprendre, et apprendre c'est les deux en fait, c'est à la fois transmettre des connaissances et à la fois élever un être humain et le prendre avec tout ce qu'il est, mais c'est les deux à la fois, et on a beaucoup de mal, je trouve, à être dans un... Et ça dessert l'école, en fait, je trouve, toutes ces approximations et tous ces excès théoriques. Et je crois qu'on a besoin quand même de soutenir massivement les enseignants qui font leur travail, leur offrent de bonnes conditions. Moi, c'est simple, hein, je suis assez, là aussi, curieux de comprendre pourquoi dans un pays où l'école est aussi importante, comme ciment de la République, on a des, tout simplement, hein, parce que c'est là que ça se joue, des enseignants qui sont aussi mal payés. j'aime évoquer les questions, en fait, économiques, parce que je trouve que ça dit beaucoup de choses de l'aspect symbolique aussi. Et je suis vraiment curieux des différences salariales qui existent, qui sont réelles. Hein. Je les ai expérimentées. Moi, je trouve pas ça normal, en fait. Après, à mon niveau d'études, après avoir fait Bac plus 10, une thèse de doctorat, une navigation, etc., d'avoir... de commencer avec un salaire qui est un salaire à peine plus élevé que le SMIC, c'est pour moi quelque chose qui est incompréhensible. Donc je pense que s'il n'y a pas, et c'est un exemple hein, très concret, c'est je pense que s'il n'y a pas à un moment une véritable revalorisation, et dans revalorisation il y a l'idée des valeurs de notre société, où finalement l'enseignant et l'enseignement et le savoir sont replacés au centre. Je vois pas trop comment on peut faire évoluer les choses. Et donc je crois beaucoup à des changements profonds quoi de système éducatif quoi. Là je crois que en l'état on ferme vraiment les yeux sur ce qui ne va pas et on est un peu dans une politique de déni quoi et de bricolage, mais je crois que il faut des engagements forts quoi. Pour moi, on devrait vraiment replacer l'école au centre de la société. On n'est pas du tout là. On est plutôt dans un système qui galope éperdument vers des modèles plus autoritaires, on va dire, quoi, de gouvernance. Et je crois que l'école est quelque chose qui dérange fondamentalement. Ça dérange. Ça dérange et c'est pourtant, je pense, que ce qu'on doit sauver parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et que cet idéal de l'école, qui est l'idéal de la démocratie, finalement... il est de plus en plus en péril hein, et qu'il est de plus en plus précieux, d'autant plus précieux à préserver. Et je pense que là, ça n'a vraiment pas du tout de couleur politique. Hein. Les gouvernements qui se succèdent et les stratégies qui se succèdent cherchent à prendre le contrôle de l'école et à minimiser au maximum la part de liberté qui est contenue par là. Donc... ouais, je suis très solidaire en fait du monde enseignant de manière générale. Je trouve que c'est vraiment la base quoi. Les enseignants devraient les chérir et pas uniquement quand il y a des drames et des attentats terroristes, mais oui. Tout le temps au quotidien en fait. Vraiment soutenir l'enseignement. C'est très bien évidemment qu'on le fasse quand il y a des actes de barbarie, mais c'est des choses qu'il faudrait faire vraiment au quotidien. Au quotidien, je trouve que redonner sa place à savoir et au plaisir qu'on peut tirer du savoir. Là, oui. On parlait de question pour un champion au départ.
Oui.
On est dans une démarche de sanction, on est dans une démarche de normativité, dans une démarche vraiment dans ce rapport-là au savoir. Pour moi, le savoir n'a jamais été ça. Pour moi, le savoir est quelque chose de joyeux, de libérateur, de profondément libérateur. C'est ça qui permet de s'élever dans la société, c'est ça qui permet de gagner, s'émanciper de sa famille, c'est ça qui permet de son milieu, c'est une force de liberté incroyable. Donc, je pense que faut préserver ça comme un trésor, c'est mon sentiment en tout cas.
Oui, tout à fait partagé. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochaine œuvre un petit peu, hein, parce qu'il faut garder du... voilà, je crois qu'elle sera publiée chez Gallimard. C'est celle qui portera sur votre maman ?
Oui, c'est un livre qui est un hommage à ma mère, justement, qui est enseignante, et dont je raconte la trajectoire de vie à travers son enfance en Espagne, dans les années 50, puis son arrivée en France dans les années 60, et justement sa découverte de l'école française, et à quel point finalement les livres, le savoir, les études l'ont sauvée de la grande misère dans laquelle elle était, puisqu'elle grandissait avec sa famille dans un, dans un bidonville en région parisienne. Et grâce à l'école, grâce à... C'est une belle histoire de l'école que j'ai voulu raconter justement, pour changer. Et c'est l'histoire d'une femme qui évidemment est aussi ma mère, mais qui est une jeune femme, puis une femme qui se construit grâce aux études et puis à la science en particulier, puisqu'elle devient enseignante de mathématiques. Et donc grâce aux études, grâce à l'école, grâce à la science, elle s'est reconstruite et elle s'est inventée librement justement dans un autre pays. Donc qui pour elle est la France, quoi. Donc, qui est devenu son pays ensuite, bien sûr, aussi, mais qui est donc un livre sur à la fois un roman qui est une forme de déclaration d'amour à ma mère et puis aussi une forme de réflexion sur l'exil, sur l'identité. Donc, non, c'est un très très beau roman. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'était très émouvant. Oui, il sort à la rentrée de janvier chez Gallimard, donc c'est une belle histoire.
On l'attend avec impatience, sachant que la question de l'exil aussi est cruciale dans notre pays. En plus de, enfin, ça va, tout ça sont des questions liées, hein, avec l'éducation. Voilà. Ben, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup pour vos réponses qui sont, voilà, fabuleuses, précieuses, qui vont me porter, moi, et je suis sûre qu'ils vont porter aussi les auditeurs qui m'écoutent. Merci beaucoup,
merci,
Olivier Liron.